الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه ليلة 27 من شهر جماد الآخرة عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الخامس من شرح كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Nous sommes le 3 mars 2019 et nous voici réunis pour le cinquième cours de l'étude du livre intitulé مسائل الجاهلية, les pratiques de l'ère pré-islamique de l'auteur Mohammed, fils de Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde et le récompense. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Al-mas'alatu al-ishurun, la question 20. I'tiqaduhum fi makhariq as-saharati wa amthalihim annaha min karamati as-salihin wa nisbatuhu ila al-anbiya كما نسبوه لسليمان عليه السلام. La croyance qu'ils avaient, la croyance que les gens de l'ère pré-islamique avaient concernant les événements extraordinaires qui en réalité venaient des sorciers et de leurs semblables. Tout comme la croyance qu'ils avaient envers les événements extraordinaire émanant de gens pieux. Qu'est-ce que cela? Ce que l'on appelle makhariq as-sahara. Ou alors tout d'abord, nous devons savoir que il fait partie de la croyance des gens de la sunna. C'est d'ailleurs un chapitre dans plusieurs ouvrages traitant du dogme, tel que le livre Al-Aqidatu al-Wasitiyya et d'autres livres encore. De croire qu'il est possible que des événements extraordinaires, inhabituels, se produisent. Seulement, les savants de la Sunna spécifient quand est-ce que ces choses seront considérées comme des miracles, comme des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala pour aider ou toute autre chose envers ses serviteurs, ou alors quand est-ce que cela relève de l'illusion, de la sorcellerie et des actes diaboliques. Les gens de l'ère pré-islamique croyaient ou étaient attachés à la croyance en ces choses extraordinaires qu'ils voyaient des sorciers. Les sorciers, eux, le faisaient à l'aide des djinns, comme on va le développer, incha'Allahu ta'ala. Donc, cette question, mes frères, est extrêmement importante. Le Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit ce qui est appelé Al-Makhariq, les choses extraordinaires, ce sont les choses sortant de l'habitude. Tu as l'habitude de voir un homme marcher sur terre, n'est-ce pas? Et tu n'as pas l'habitude de voir un homme voler. Voir un homme voler serait pour toi quelque chose d'inhabituel, d'extraordinaire. Extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, n'est-ce pas? Que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de produire en réalité. Subhanahu wa ta'ala. Il se peut que ces choses arrivent aux prophètes envoyés d'Allah, azza wa jal, wa alayhimu salatu wa salam. Lorsque cela arrive à un prophète, on appelle en arabe cette chose, cet événement, Al-Mu'jiza. C'est cela que l'on a traduit approximativement par le miracle des prophètes. Chaque prophète est venu avec un miracle. Moussa alayhi salam avait comme miracle, Mu'jiza, comme chose qui sort de l'ordinaire, de l'habituel chez les gens connus, le fait de lancer un bâton qui se transforme en serpent. Mais il avait d'autres signes encore qui ont été cités dans le livre d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mais le plus grand que vous connaissez, c'est celui-ci. Vous connaissez aussi le fait que Moussa a traversé la mer, qui s'est ouverte pour lui frayer un chemin dans lequel il est passé. Cela sort de l'ordinaire, de l'habituel connu chez les gens. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand miracle qu'il a amené, c'est le Coran. C'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par laquelle il a défié tous les détracteurs de son message qu'il portait, alayhi salatu wa salam, et personne n'a pas su réussir à vaincre le prophète, alayhi salatu wa salam. D'autres choses encore. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a fait un signe de la main, comme s'il découpait quelque chose, et les gens de Quraysh ont regardé, ont levé leur tête au ciel, et ont vu la lune se fendre en deux, devant eux. Et pourtant, ils n'y ont pas cru. Ils ont dit de lui qu'il était un sorcier. Sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demandait des signes, et quand Allah lui donnait des signes, il n'y croyait pas, il n'y adhérait pas. Il s'obstinait dans le faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, lors d'une bataille connue, a manipulé une marmite bouillonnante dans laquelle il y avait de quoi manger. Et suite à cela, ils sont venus manger les uns après les autres et il les servait de la même marmite. Et il en restait à la fin. Et ils étaient un grand nombre, les compagnons ce jour-là. Radiallahu ta'ala, anhum. Et il y a encore d'autres signes qui ont été cités dans la sunna. Le prophète Isa alayhi salam faisait revivre le mort par la permission d'Allah. Azza wa jal. Il guérissait le lépreux par la permission d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et bien d'autres choses encore. Lorsque nous parlons d'un prophète, on appelle ces choses-là al-mu'jizat. Le pluriel de mu'jizatun. Ces signes ont été cités par le cheikh al-allama, l'imam Salih al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala. Avec ces signes, Allah, tabaraka wa ta'ala, a rendu les détracteurs des messagers à l'incapacité. D'où l'appellation mu'jiza, venant du verbe a'jaza, c'est-à-dire rendre incapable. Par ces signes, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu les détracteurs des prophètes incapables de rivaliser avec eux. Il y a, après cela, des choses relevant du domaine de l'extraordinaire également, qui sont arrivées et qui peuvent arriver encore aux gens pieux, aux gens du tawhid, aux savants, aux gens proches d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, suivant la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ces choses-là sont appelées karamatul awliya. Karamatul awliya. C'est-à-dire que il s'agit de la même chose qui arrive aux messagers. Si ce n'est que lorsqu'il s'agit de gens pieux qui ne sont pas des prophètes, on les appelle karamatul awliya. Allahu a'lam, la traduction exacte, mais vous avez compris de quoi est-ce que l'on parle, c'est l'essentiel. Et la troisième chose, c'est ce que l'on appelle makhariq al-shayatin, les choses relevant de l'ordinaire, de l'extraordinaire, pardon, sortant de l'habituel, les choses qui à la base ne se font pas, mais qui émanent des sorciers, qui émanent des shayatin. Comme le fait de marcher sur l'eau, d'entrer dans le feu sans être atteint, d'avaler devant les gens ce qui est nuisible, de se rentrer des épées et des couteaux, comme vous le voyez, chez ceux qui sont appelés les illusionnistes, qui sont des sorciers en réalité. Car la sorcellerie se divise en deux. Il y a al-sihr al-haqiqi wa al-sihr al-khayali, la sorcellerie véritable et la sorcellerie relevant de l'illusion. Ce fut le cas du peuple de Moussa, alayhi salam, vous le voyez dans l'histoire dans le Coran. Ces choses-là sortent de l'ordinaire, n'est-ce pas? Ces choses-là, chers frères, ô musulmans, ont été la cause de l'égarement de bon nombre de gens, qui ont délaissé complètement le Coran et la Sunna, parce que ils ont vu certaines de ces choses, ou alors on leur a relaté et on leur a parlé de certaines de ces choses auxquelles ils ont été fortement attachés de leur cœur, au point de délaisser le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et la sunna du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'égarement dans ce domaine fut gravissime, et le précipice dans lequel les gens se sont engouffrés est très profond, les savants de l'islam ont écrit des livres pour rétablir les bases saines de la croyance du musulman envers tout ce qui sort de l'ordinaire. Et ils ont dédié des chapitres dans les livres traitant du dogme islamique, l'aqida. Et d'ailleurs, l'imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, a un écrit intitulé Al-Furqan, Bayna Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan, le discernement entre les alliés du Tout Miséricordieux et les alliés du diable. Et dans cet écrit, justement, il traite de ce sujet où il montre aux gens comment reconnaître qu'une chose qui relève de l'extraordinaire vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tout vient d'Allah et il est capable de tout, mais dans le sens où vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala, envers quelqu'un qui est pieux, ou alors vient de Shaytan, envers quelqu'un qui est mauvais et dans le but de tromper les gens. Combien les gens ont été trompés par ces choses-là? Ils disent, je vole, je marche dans l'eau. Et ils montrent aux gens qu'ils volent véritablement, mes frères, et qu'ils marchent dans l'eau. La réalité de cela, c'est qu'ils sont aidés par des shayatines qui les tiennent et que l'on ne voit pas. En échange, ils les adorent. Ils leur vouent l'adoration. Ils les invoquent comme on invoque Allah. Ils leur font des offrandes et des sacrifices comme on doit le faire pour Allah uniquement, subhanahu wa ta'ala. Et avec cela, ils trompent le public et ils empochent l'argent, wal'iyadhu billah, se faisant passer pour des gens ayant ce qu'ils appellent les dons héréditaires, la famille qui a hérité des choses extraordinaires, wal'iyadhu billah. Quel égarement alors! Et les savants de la sunna ont vécu ces choses-là de la part des Sahara, de la part des sorciers, de la part des égarés, notamment Cheikh al-Islam lui-même, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui passait près d'endroits où il entendait qu'il était appelé et qu'il y avait quelque chose dans l'air qui l'appelait ou une pierre qui s'adressait à lui. Que faisait-il? Il récitait Ayat al-Kursi et la chose qui était dans l'air s'effondrait au sol sur place, parce que le shayatin ne résiste pas devant Ayat al-Kursi, qui est le verset le plus important du livre d'Allah en raison du sens qu'il contient, qui est la description d'Allah Azza wa Jal dans sa perfection, dans son unicité. Et les shayatins ne résistent pas à cela. Pour cette raison, les savants disent que celui, c'est l'imam Ibn Taymiyyah lui-même, rahimahullah, qui le dit, quiconque récite Ayat al-Kursi devant une de ces choses extraordinaires venant d'un charlatan, d'un sorcier, cette chose s'arrêtera immédiatement. Car elle est faite à l'aide d'un djinn qui, lui, ne peut pas résister devant la lecture de la parole d'Allah, encore plus quand il s'agit de Ayat al-Kursi, le plus grand verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parlant des messagers et des prophètes, alayhim as-salatu wassalam, leur amène ces miracles? Pour une des deux choses suivantes, les savants disent « les hajatin ou hujjatin » pour un besoin ou pour appliquer les arguments, c'est-à-dire pour que le détracteur n'ait plus aucun argument. Et on va vous donner des exemples. Allah subhanahu wa ta'ala a donner des signes au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il n'ait plus aucun argument. Quand ils lui ont dit, montre-nous un signe, Le prophète alayhi salat wa salam a fait un signe de la main vers le ciel en direction de la lune. Ils ont levé la tête et l'ont vu se fendre en deux. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afin qu'il n'ait plus d'argument, afin qu'il ne puisse plus dire « tu n'es pas un prophète ». Mais pourtant, malgré cela, ils se sont entêtés dans leur mal. Et d'autres signes aussi, qui sont arrivés dans la vie du prophète alayhi salatu wa salam, pour un besoin lors de bataille, il est arrivé que les compagnons n'avaient plus avec eux assez de provisions et nourriture pour continuer leur cheminement. Le prophète alayhi salat wa salam a failli, ou les sahaba, sacrifier un des chameaux utilisés pour en manger la viande, faute de provisions. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni tous les vivres que les sahaba avaient avec eux, toutes les nourritures. Chacun a posé dans un drap ce qu'il y avait en petite quantité. Une fois tout cela réuni, ils sont venus et chacun a pris sa part, les uns après les autres, les uns après les autres. Et ils ont tous eu et ont été rassasiés. Pareil pour l'histoire de la marmite et d'autres choses encore qui sont arrivées. Elles sont arrivées pour un besoin, tout comme elles peuvent arriver pour apporter l'argument au détracteur et le réduire à l'incapacité. Également, ces choses-là peuvent arriver aux gens qui sont pieux, afin de les raffermir dans le haqq dans lequel ils sont. Et l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous dit que les récits authentiques des salafs à qui des choses de ce domaine sont arrivées sont très très nombreux. Et ces choses peuvent arriver jusqu'à l'époque qui est la nôtre, jusqu'au moment où je vous parle. Seulement, lorsqu'une chose qui relève de l'extraordinaire arrive, comment moi le musulman dois-je réagir pour savoir s'il s'agit vraiment d'un signe venant d'Allah Azza wa Jal ou d'une ruse de shaitan? Les savants disent, les salafs depuis l'ancien temps ont dit, إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء, si tu vois un homme marcher sur l'eau ou voler dans les airs, dans le sens de leur parole, فلا تصدقه حتى ترى أنه متبع للسنة, ne le crois que si tu le vois suivre la sunna. Ça, c'est un signe montrant comment reconnaître la véracité ou non de ces gens. Également, le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, jazahullahu khayran wa hafidhahullah, a dit que les gens qui ont ces signes-là ne s'en vantent pas. Allah Azza wa Jalla a dit « وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ » Ne faites pas vos éloges. « هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى » Il est plus connaisseur de ceux qui le craignent. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, tous ces gourous de sectes, tous ces guides égarés qui viennent et qui disent « Regarde ce que j'ai fait, regarde ce qui m'est arrivé », ce sont des menteurs. D'ailleurs, ils vont même jusqu'à dire, mes frères, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sorti de sa tombe, pas en rêve, dans la réalité. Il est sorti de sa tombe pour aller jusqu'à la grotte de quelqu'un, de Ahmed al-Tijani, un des gens qui sont suivis, pour lui faire la révélation qu'il est le plus grand pieux de la terre et qu'il va désormais réciter la fameuse prière appelée Salatul Fatih, dont la récitation une fois est meilleure que 6000 fois le Coran. Wal'iyadu billah. Mais comment est-ce que l'on peut croire à cela? Le grand Shir Taqiyuddin al-Hilali, un imam du Tawhid et de la Sunna du Maroc, qu'Allah lui fasse miséricorde, a vécu une longue partie de sa vie en étant Tijani. C'est lui qui raconte sa propre vie. Et il dit qu'une des causes l'ayant amené à faire Tawbah, revenir à la Sunna, c'est qu'il a entendu des gens deux personnes débattre, l'un fanatisé pour cette idéologie et l'autre l'appelant à la sunna qui lui dit: vous dites que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sorti de sa tombe en vrai pour venir le voir et lui apprendre telle et telle chose. N'est-ce pas que quand il est mort sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans étaient déstabilisés, bouleversés? Ils cherchaient qui est-ce qu'ils allaient désigner comme successeur au prophète alayhi salatu wa sallam, si bien qu'ils ont même retardé son enterrement alayhi salatu wa sallam, alors que dans la sunna il faut se précipiter. Il y avait donc un très grand problème touchant la communauté. Et pourtant le prophète n'est pas venu alayhi salatu wa sallam régler ce problème. Pareil au temps des autres compagnons. Des énormes problèmes ont touché la communauté. Et pourtant le prophète n'est pas venu régler ces problèmes. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est mort dans sa tombe. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu vas mourir et ils vont mourir, comme a dit Allah dans le sens du verset. Subhanahu wa ta'ala. Donc comment après des siècles va-t-il venir sortir de sa tombe pour aller je ne sais où? Donc ces gens-là ont dit, ce sont des miracles. Tu ne comprends pas, tu es voilé toi. Mais ce sont des miracles réels. Et quand tu parles à l'un d'entre eux, il te dit, Yaqavatan, la filmanam. Il te dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, est venu en réveil, pas en rêve. Il s'accroche à ça, comme le muwahhid s'attache au tawhid. Malheureusement. Et ça, c'est une des pratiques des gens de l'ère pré-islamique, de l'ignorance. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, après nous avoir parlé du fait que lorsque l'extraordinaire arrive à un pieux, on l'appelle karama, karamat al-awliya, il nous dit que ce qui arrive de la part de ceux qui mécroient en Allah comme chose extraordinaire relève des actions des shayatin. C'est du charlatanisme, de la ruse, de la sorcellerie, de l'illusion venant des actions des démons ayant pour but de pervertir la croyance des gens. Car les gens, lorsqu'ils voient ça, ils adhèrent à une croyance qui n'est pas la croyance de la religion d'Allah, de l'islam. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. L'auteur, rahimahullah, continue et nous dit « Al-mas'alatu al-hadiyatu al-ishurun » La question 21. « Ta'abuduhum bil-muka'i wa-tasdiyah » تعبدهم بالمكاء والتصدية. Regardez, l'auteur ici nous donne une phrase qui est très courte. Il nous dit que ces gens-là avaient comme pratique religieuse par laquelle ils croyaient se rapprocher d'Allah. Ils pensaient de cela que ça les rapprochait d'Allah. Ce que l'on appelle al-muka ou wat-tasdiya, c'est-à-dire le sifflement et l'applaudissement. Ces gens-là, les gens de Quraysh, se tenaient devant la Kaaba, autour de laquelle ils tournaient, complètement dévêtus, hommes et femmes. Ils sifflaient et ils applaudissaient, se frappaient les mains. Que pensaient-ils? Que ce comportement les rapprochait d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a dit dans le sens du verset, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Et leur prière proche de la maison, c'est-à-dire de la Kaaba, n'était que des sifflements et applaudissements. C'est-à-dire que les polythéistes autour de la Kaaba sifflaient et applaudissaient en pensant que cela les rapprochait d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, et il le faisait même complètement dévêtu, homme et femme mélangés. Comment peut-on croire que cela vient de la religion d'Allah et agrée le Créateur, subhanahu wa ta'ala? Ce sont des actions qui ont été enjolivées par les shayatin, comme le dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, ceci, car l'adoration s'arrête aux preuves. Et on ne peut pas adorer Allah Azza wa Jal selon ce que l'on pense nous ou selon ce que l'on juge nous comme quelque chose de bon. Sinon, la religion aurait alors plusieurs goûts et couleurs, car les goûts et les couleurs des gens diffèrent. La religion d'Allah Azza wa Jalla est basée sur la révélation, sur le Coran, sur la Sunna. Et pourquoi est-ce que l'auteur cite cela, chers frères? Parce que dans le domaine du soufisme, on retrouve ces agissements. Et si vous, je ne vous conseille pas de le faire, donc je vais changer ma phrase, mais il a été lu dans des livres de soufisme que le grand maître d'entre eux prononçait le discours du vendredi dévêtu, nu. Et les gens disaient, c'est une spécificité qu'Allah lui a donnée. Vous ne pouvez pas comprendre. Asseyez-vous, regardez, et voilà. Ya subhanallah. Il te déshabille ton cœur du tawhid, et tu vas aussi te déshabiller de tes vêtements. Et beaucoup de choses encore que la pudeur nous empêche de citer. Je ne sais même pas si vous croirez à cela. Wallahu ta'ala al-musta'an. De même, le fait de siffler et d'applaudir, ce sont des pratiques vues dans le soufisme. Dans leur mosquée, que font-ils? Ils sifflent, yarhamukallah, ils sautent et ils applaudissent en disant Allah, 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 Allah. Ensuite, hou, 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 hou. Wallahi, la personne douée de raison qui voit ça, elle va dire que ces gens-là sont complètement fous. Ils ont perdu la tête. Ils ne réfléchissent plus. Ce ne sont pas des gens sensés. Wallahu musta'an. Et concernant l'applaudissement, il a été autorisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux femmes particulièrement, notamment lors de l'erreur commise par l'imam, lorsque en prière en groupe, il y a les hommes et derrière les femmes. Si l'imam commet une erreur, il est permis à la femme de faire un applaudissement pour essayer d'avertir l'imam. Et l'homme, lui, devra dire dans la prière subhanallah ou autre, une parole de dhikr. Mais sinon, les hommes ne doivent pas applaudir. Les hommes n'applaudissent pas, ni ne sifflent. Ce n'est pas un comportement des musulmans, mais c'est un comportement de l'ère pré-islamique. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite, Al-mas'alatu thaniyatu al-ishrun, la question 22. Innahum ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Ces gens-là faisaient de leur religion un amusement et un jeu. C'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas au sérieux la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ils la prenaient à la dérision. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, nous explique ces deux termes et nous dit que Allah huwa kullu batilin yulhi anil haqq. Allah, en arabe, que j'ai traduit approximativement par l'amusement, c'est tout ce qui distrait de la vérité. Wallaib est le jeu, diddul jidd, c'est le contraire de la sérieuxité. C'est ce dans quoi il n'y a pas d'intérêt. Ces gens-là jouaient de leur religion. Ils la prenaient comme une plaisanterie. Ils ne lui portaient pas la considération qu'il fallait lui porter. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est une amana lourde, extrêmement importante. Qu'est-ce que faisaient ces gens-là notamment? Ils se rapprochaient d'Allah en chantant. Ils se rapprochaient d'Allah en dansant. Ils se rapprochaient d'Allah en utilisant des instruments musicaux. C'est ce que l'on voit dans le soufisme. Et certains, comme a soulevé le Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, certains argumentent même par des versets qui n'ont rien à voir. Allah Azza wa Jalla a dit Alladhina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Ceux qui évoquent Allah debout, assis et couché sur leur côté. Quand tu entends ça, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Debout, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, assis, pareil, couché, pareil. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça, c'est la preuve du mouvement. C'est la preuve de la danse pour adorer Allah. Debout, assis, couché, bouge à droite, bouge à gauche, bouge dans tous les sens. Wal'iyadu billah. Ça, c'est exactement jouer avec la religion d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala t'appelle au sérieux, t'appelle au tawhid, t'appelle à l'ibada. Et toi, tu prends ces versets comme preuve pour danser et pour dire que c'est un moyen de se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. De même, le fait d'utiliser ce que l'on appelle l'anashid, ce qui est appelé l'anashid ou l'islamiyya, les anashid islamiques, qui ont fait oublier aux gens le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec les effets spéciaux, n'est-ce pas? Et tu vois la personne prise, tu vois la personne aspirée. Et lorsqu'elle entend le Coran, rien, aucun effet. Par contre, quand elle entend ces choses-là, et qui sont très souvent accompagnées d'instruments, qui sont interdits, et pire encore, lorsque les paroles contiennent des innovations, contiennent des exagérations à l'égard du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, contiennent des paroles de shirk, le fait de rattacher les choses aux causes, non pas à Allah, subhanahu wa ta'ala, ces livres, ces poésies sont remplis d'interdits de désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on le voit aussi chez al-Hizbiyoun, les sectaires, qui pour attirer les jeunes dans leurs croyances égarées, comme al-Khawarij à notre époque, quand ils veulent attirer les pauvres jeunes qui n'ont pas une grande compréhension de leur religion vers les attentats, vers le fait d'assassiner, soi-disant pour défendre la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il leur montre des vidéos avec ses musiques justement, et avec ses chants. Puis ensuite il lui dit, tu vois la vidéo? Ça y est, tu es devenu pieux. Toi, tu vas défendre l'islam. Alors qu'il ne connaît pas la ilaha illallah. Alors qu'il ne connaît pas sunna bid'a, tawhid shirk. Alors qu'il ne sait pas comment prier. Mais il a regardé cette vidéo, ça y est. Il va devenir un secoureur de l'islam et de la sunna. La ya akhi ma hakadha turadul ibil. Ce n'est pas comme ça que l'on tire les chameaux quand on veut les conduire vers un endroit. Ce n'est pas comme ça la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, le fait d'utiliser des paroles où la personne va chantonner, mais qui ne contiennent pas d'interdiction, lors du travail par exemple, comme les compagnons l'ont fait, radiyallahu ta'ala anhum, et dans d'autres occasions telles que le cheminement dans le voyage contraignant, des paroles qui rappellent Allah subhanahu wa ta'ala, des paroles dans ce sens, il n'y a pas de mal à le faire. Par contre, prendre la religion comme un moyen de jeu et de plaisanterie, et d'aller même argumenter cela par des versets qui n'ont absolument rien à voir, qui sont en réalité des preuves contre ces gens-là, c'est un égarement sans le moindre doute. L'auteur, rahimahullah, nous dit ensuite, al-mas'alatu thalithatu wal-ishurun. La question 23. Inna al-hayat ad-dunya gharratuhum fadhannu anna 'ata' Allah minha yadullu 'ala ridah ka qawlihim nahnu aktharu amwalan wa awladan wa ma nahnu bimu'adhdhabin. Celle-ci est très importante. La vie d'ici-bas les a trompés. Les gens de l'ère pré-islamique ont été trompés par la dunya, par la vie d'ici-bas. Si bien qu'ils ont cru que les biens qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a donnés, les richesses qu'Allah leur a données, les enfants qu'Allah leur a donnés, toutes ces choses-là sont l'indice montrant qu'Allah est satisfait d'eux. Si Allah m'a donné tout cela, c'est qu'il est satisfait de moi. Et si lui n'a pas eu, c'est qu'Allah n'est pas satisfait de lui. Alors que cette balance est complètement fausse et complètement erronée. L'auteur, rahimahullah, nous cite un verset faisant la mention de ce qu'ont dit ces gens-là. Nahnu aktharu amwalan wa awlada. Nous avons plus de biens et d'enfants, c'est-à-dire qu'autrui. Nous avons plus de biens, plus riches qu'eux, plus d'enfants qu'eux. وَمَا نَحْنُوا بِمُعَذَّبِينَ On ne sera pas châtiés. Pourquoi est-ce qu'ils ont cru qu'ils ne seront pas châtiés? Parce que pour eux, Allah les a honorés en leur donnant tout cela. Alors qu'Allah Azza wa Jalla a dit justement فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ Que leurs différentes activités dans le pays ne te trompent pas. Ne sois pas trompé par leurs richesses, par leurs différentes occupations, par tous ces biens qu'ils possèdent, par le grand nombre d'enfants qu'ils ont. Ne sois pas trompé par tout cela, car ce n'est qu'une illusion pour eux. Et le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, a cité le verset entier. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ Et ils dirent, nous avons plus d'enfants et de biens, et nous ne serons pas châtiés. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ Dis, répond à cette ambiguïté. Dis, mon Seigneur étale la subsistance à qui il veut, tout comme il la restreint. Il donne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala, Allahumma nas'aluka min fadlik, Allahumma wassi alayna fil rizq al halal ya razzaq. Qu'Allah nous donne la subsistance halal, qui nous permet de l'adorer, de lui obéir, béni et bonne. Allah donne à qui il veut, il étale à qui il veut, et il la restreint à qui il veut. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Mais la plupart des gens ne savent pas. Verset suivant. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى Et ni vos enfants, pardon, et ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprochent de nous, c'est-à-dire d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla dise, قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ Dit, Mon Seigneur étale la subsistance à qui il veut parmi ses serviteurs et il lui restreint. Il lui donne ou il lui restreint. وَمَا أَنْفَقَتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Et ce que vous dépensez, il le remplace. Et il est le meilleur des pourvoyeurs. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, l'abondance dans les biens n'est pas une preuve que la personne est aimée d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna allaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib » Allah donne de cette dunya à qui il aime et à qui il n'aime pas. « Wa amma ad-din » Quant à la religion, « Fala yu'ti illa man yuhib » Il ne la donne qu'à celui qu'il aime. Voici l'indice montrant est-ce que la personne est aimée d'Allah ou non. Et le prophète alayhi salatu wa sallam dit aussi لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة si la dunya, la vie d'ici-bas, équivalait chez Allah à l'aile d'une mouche, à l'aile d'une mouche, là, l'aile d'un moustique, ما سقى منها كافرا شربة ماء il n'aurait même pas abreuvé un mécréant. La dunya n'a aucune valeur chez Allah. C'est pour ça qu'il leur donne tout ce qu'il leur donne. Et c'est pour ça qu'ils ont tout ce qu'ils ont. Parce qu'à la fin, poussière éparpillée. Plus rien chez Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus noble chez Allah, le plus pieux. Et pourtant, il est mort endetté sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba radiyallahu anhum ne trouvaient pas de quoi manger des jours durant, des semaines durant. Si bien que l'un d'entre eux, ou même la plupart d'entre eux, attachaient des pierres qu'ils serraient sur leur ventre pour vider, combler le vide de l'estomac qui provoque la douleur ressentie. Et pourtant, ils sont les aimés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, la preuve que la personne est aimée d'Allah n'est pas l'abondance de biens, mais plutôt le suivi de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, dit... المسألة الرابعة والعشرون La question 24 ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآية. Ils délaissaient la vérité à laquelle ils étaient appelés. Ils délaissaient la vérité si les faibles les devançaient dans le suivi de cette vérité. Ils étaient appelés à suivre la vérité, à obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, à suivre leur messager, n'est-ce pas? Mais dès lors qu'ils constataient que ce sont les pauvres ou les faibles qui suivaient et qui les ont devancés dans le suivi, alors ils ne suivaient pas cette vérité. Et ils refusaient, d'après leur vision des choses, de se rabaisser. Je suis de telle classe sociale, de tel rang, j'ai telle et telle chose, j'ai fait telle et telle chose, et je vais suivre ces gens-là. Et ça, c'est ce que l'on voit à cette époque. La personne qui a brillé dans les études, dans le commerce, dans les choses mondaines de la vie d'ici-bas, et qui n'est pas très religieuse. Très souvent, ce genre de personnes disent « Ces gens-là n'ont pas de diplôme. Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là? Moi, je vais les suivre. Moi, j'ai telle et telle chose. J'ai appris telle et telle chose. Je suis cultivé. J'ai été dans telle école. J'ai voyagé dans tel pays, tel pays, tel pays. Mon compte, il y a tant. J'ai telle société, j'ai bâti. Ces gens-là n'ont rien fait. Je vais les suivre. » Voilà les arguments des gens. C'est la vérité qu'il faut suivre. On ne parle pas de gens. Si la vérité avec le riche, tu suis le riche. Si elle avec le pauvre, tu suis le pauvre. Si elle est avec le malade, tu suis le malade. En bonne santé, tu suis celui qui est en bonne santé. Et ainsi de suite. C'est la vérité qu'il faut suivre. Et il disait au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, que s'il voulait qu'il le suive, alors il devait exclure telle et telle personne. Et l'imam al-Tabari, rahimahullah, a cité quelques noms tels que Salman al-Farisi, le compagnon Khabbab, radiyallahu ta'ala anhuma, et d'autres parmi les faibles sahaba, ou alors qui étaient pauvres. Et Allah Azza wa Jal a révélé « وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ » Et n'exclut pas ceux qui invoquent leur Seigneur de matin comme de soir. Ne les exclut pas. La balance, c'est qu'ils obéissent et qu'ils invoquent leur Seigneur. Ne les exclut pas. C'est un comportement auquel Allah Azza wa Jal nous appelle. Ils rejetaient la vérité pour cet argument d'après eux. Le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit وَلِهَذَا قَالُوا أَهَا أُولَٰئِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. Ils ont dit, est-ce que ce sont ces gens-là qui ont été comblés par Allah alors que nous sommes là? Nous, les meilleurs, les plus hauts, les plus riches, les plus forts, nous sommes là et eux ont été favorisés à nous. Et après cela, vous croyez qu'on va les suivre? Voilà l'argument de ces gens-là. Et c'est une action de l'ère pré-islamique. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite, « Al-mas'alatu al-khamisatu wal-ishrun » La question 25. « Al-istidlalu ala butlanihi bisabqi du'afai ka qawlih law kana khayran ma sabakuna ilay » La question 25 a rejoint la 24. La 25 est la suivante. Pour eux, la preuve que la vérité à laquelle ils étaient appelés était fausse, le fait qu'ils aient été devancés par les faibles. Donc dans la première question, on parle de rejeter la vérité. Ou alors, pardon, de refuser d'entrer dans la vérité, de suivre la vérité. Et dans celle-ci, de la rejeter. Bien évidemment, vous comprenez que cela se rejoint. Mais il disait, la preuve que ce à quoi vous nous appelez est faux, est le fait que nous avons été devancés dans le suivi de ce à quoi vous appelez, par les faibles. لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ. Ils ont dit dans le sens rapproché du verset, si cela était un bien, ils ne nous y auraient pas devancés. Ajib. لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ. Il disait, nous sommes des gens de connaissance, nous avons de l'expérience, nous réfléchissons, nous connaissons les choses. Et quand nous avons vu que ces gens-là nous ont devancés dans le suivi de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, alors nous l'avons délaissé. Car si cela était un bien, ces gens-là ne nous auraient pas devancés. Car nous sommes ceux qui comprennent, qui comprenons les choses, qui voyons la vérité. Et en cela, ils se sont égarés. Comme ils ont dit aux différents messagers, notamment lorsqu'ils dirent « Anu'minu laka wa taba'aka al-arzalun » « Allons-nous avoir foi en toi, alors que ce sont les plus vils d'entre nous qui te suivent ?» Et c'est pareil pour les prêcheurs à la sunna, pour les savants de la sunna, quand ils appellent au tawhid, quand ils appellent à la sunna, qu'est-ce qu'ils disent? Ils n'ont pas de chaîne télévisée, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de grande université. Oh, c'est lui que vous nous avez amené pour nous faire un dars? Ramenez-nous un docteur, un docteur, ramenez-nous telle chose, n'est-ce pas? هذه طريقة جاهلية لرد الحق. C'est une méthodologie de la jahiliya pour rejeter la vérité. L'auteur rahimahullah dit ensuite Al-mas'alatu sadisatu wal-ishrun, la question 26, tahrifu kitabillahi min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. L'altération du livre d'Allah après l'avoir compris en pleine connaissance de cause. Les gens du livre dont il parle ici, rahimahullah, ont reçu deux révélations d'Allah, at-Tawratu wal-Injil, la Torah et l'Évangile. Qu'ont-ils fait? Ils ont lu ces livres, les ont compris, et après cela, ils les ont falsifiés. Ils les ont altérés, si bien que jusqu'à nos jours, ils divergent. Telle version, ils enlèvent telle version, ils mettent telle autre version. La Bible selon telle, l'Évangile selon telle, selon telle, selon telle. Il y a des fractions au sein de leur idéologie ou de leur croyance. Ils ont falsifié. Amma kitabullah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an fa inna Allah yahfadhu. Quant au Qur'an, Allah azza wa jal a dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous avons fait descendre le rappel et nous en sommes le gardien. Allah le préserve. Alors que la Torah et l'Évangile, Allah Azza wa Jal a éprouvé les guides de ces deux communautés en leur donnant la garde de ces deux livres, afin de voir ce qu'ils allaient faire, bien qu'Allah connaisse tout, mais aussi pour les dévoiler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé des versets et ils ont mis leurs paroles à la place. Wal'iyadhu billah. Ils les ont donc falsifiés, et ils les ont falsifiés après les avoir lus, compris, et non pas par erreur, mais plutôt en pleine connaissance de cause, nous dit l'auteur. Ce que l'on appelle le tahrif, l'altération, la falsification, on l'a vu en détail dans Kitab al-Aqidah al-Wasitiyya de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. C'est le fait de changer le texte, soit tahrifun lafzi, en changeant le mot, ça peut être en changeant les accents, les voyelles, pour en donner un sens différent, ça peut être en ajoutant une lettre, en enlevant une lettre, ou tahrifun ma'nawi, ou une falsification du sens. Il s'agira alors de laisser le mot comme il est écrit, sans rien changer, mais de lui en donner une interprétation qui n'est pas celle voulue par Allah, subhanahu wa ta'ala, selon les goûts et les passions des différentes sectes, ne suivant pas la voie du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Tout ceci dans le but de propager leur mal, leur égarement, et de le justifier soi-disant par des preuves du Coran et de la Sunna. C'est pour ça que les savants de la Sunna ont réfuté et ont dissipé ces ambiguïtés en montrant, en clarifiant ce qui est voulu par les textes du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Salah al-Fawzan hafidhahullah nous dit que ce malheur ne cesse de toucher les musulmans jusqu'à notre époque. Les différentes sectes qui ont des croyances erronées concernant les noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, concernant leur conception fausse de la sunna, lorsqu'ils innovent, lorsqu'ils adhèrent à des croyances malsaines, ils ont besoin de les justifier. Comment vont-ils faire? Ils vont dire, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى, et ils vont lui donner un sens. Regardez, souvenez-vous, dans une des questions que l'on a traitées précédemment, ils inventent des hadiths. Ils font des actions et ils disent, c'est le prophète qui a dit, alayhi salatu wassalam. Donc soit ils inventent des hadiths, soit ils prennent des hadiths et changent leurs mots, ou alors ils changent leur sens. Tout ceci dans le but de propager le faux et d'y appeler les gens, wal'iyadu billah, comme le Cheikh Salah Al-Fawzan hafizahullah cite l'exemple de riba, des intérêts. Riba haram. Les intérêts sont interdits de manière claire dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourtant, tu vous retrouves des fatawas, des avis juridiques émis par les gens de la passion, rendant licite le riba en disant il y a une différence entre telle chose et telle chose, il ne s'agit pas de ceci mais plutôt de cela, et ils vont chercher dans les ambiguïtés, etc. Alors qu'en réalité, les textes sont clairs. Les textes interdisant le riba sont clairs. Walillahi alhamdu wal minna. Ainsi, ces gens-là avaient ce genre d'agissement, c'est-à-dire qu'ils falsifiaient les textes du Coran et de la Sunna. De même, les gens de l'égarement, les gens de l'innovation de notre époque le font. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite, Al-mas'alatu al-sabi'atu wal-ishurun, la question 27. Tasnifu al-kutub al-batila wa nisbatuha ila Allah. Wal-ayyadu billah. Ka qawlih. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. Ils écrivaient des livres contenant le faux qu'ils attribuaient à Allah. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens du verset, malheur alors à ceux qui écrivent des livres de leurs mains puis disent ceci provient d'Allah. Et comme on le retrouve chez les sorciers, as-sahara, يكتبون الكتابات ويقولون فيها كلام الله فيها أسماء الله هذا من الله فيه شفاء والعياذ بالله. Ils disent ces choses viennent d'Allah. Il y a la guérison, il y a des noms, des versets d'Allah. والعياذ بالله. Ils disent, il t'écrit, puis il te dit, mets-le dans ta poche. Tu n'arrives pas à avoir des enfants, tu vas en avoir. Tu es pauvre, tu vas devenir riche. Et ils vont même jusqu'à mettre des feuilles dans les boîtes aux lettres des gens. Ou alors ils envoient leur appel à ce balel, à cet égarement, à ce batil, par internet et avec tous les réseaux sociaux. Et un jour, j'en ai appelé un. Je lui ai dit, vous êtes musulman? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, mais dans votre religion, il ne sait pas qu'un musulman lui parle. Et dans votre religion, ils disent que c'est interdit de faire ce que vous faites. Il dit non, 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 je travaille avec les noms d'Allah. Wal'iyadu billah. Je lui dis, vous êtes capable de rendre les gens riches? Il me dit, bien sûr. Je lui dis, pourquoi alors avez-vous besoin pour devenir riche de mettre tout ça dans les boîtes aux lettres des gens? Pourquoi vous ne faites pas une écriture pour vous rendre riche et laisser les gens tranquilles? Il me dit, toi, tu ne comprends rien. Laisse-moi. Ce sont les gens de l'égarement, les gens du dalal. Il dit, c'est avec les noms d'Allah que je travaille. Dans le Coran, Allah nous enseigne de l'invoquer, de lui demander. De lui demander, quand tu as besoin de quelque chose, tu demandes à Allah. Il n'y a pas d'écriture, le kitab, hada, batil. Il n'y a pas d'écriture, le kitab, ou le hijab, on l'appelle dans notre pays le gris-gris. Et il dit, c'est la parole d'Allah, c'est le nom d'Allah. هَذَا كَلَمٌ بَاطِلٌ. C'est une parole qui est fausse. C'est de cela qu'Allah parle, subhanahu wa ta'ala, notamment dans ce verset. Malheur à ceux qui écrivent de leurs mains et qui disent ça vient d'Allah. Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah, dit, il y a aussi Cheikh al-Fawzan, pardon, hafidhahullah, le fait d'écrire des livres remplis de bid'a, remplis de shirk, et de dire « هذا من الله »« هذا من دين الله » ça c'est la religion d'Allah, ceci provient d'Allah. Et après, ils vont le justifier par des rêves. Et l'un d'entre eux qui a écrit un livre rempli d'innovations et de shirk, à la fin du livre, il dit, après avoir écrit ce livre, j'ai longuement hésité. Et le prophète est venu me voir en rêve, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, pourquoi est-ce que tu hésites? Propage ton livre. Regardez ce qu'ils mettent dans la tête des gens. Les gens délaissent le Coran et la Sunna pour les rêves de gens qui ont perdu la raison, qui ne tiennent pas debout dans leur tête. Subhanallah. Wallahu al-musta'an. Donc il faut faire attention à toutes ces choses-là. L'auteur, rahimallah, dit ensuite, al-mas'alatu al-thaminatu al-ishurun, la question 28. أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. Les gens de l'époque pré-islamique n'acceptaient de la vérité que ce qu'ils voyaient dans leur groupe. On le voit chez nous, on le voit avec les gens qui sont avec nous, c'est la vérité, on l'accepte. Ces choses-là ne sont pas avec les gens que nous suivons, qui sont avec nous, on ne les accepte pas. Coran, Sunna, non, ce n'est pas chez nous. Coran, Sunna, قال الله, قال الرسول, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, mais chez nous, on ne voit pas ces choses-là. Alors, on ne le suit pas. هذه طريقة جاهلية. C'est une pratique de l'ère pré-islamique. Qu'est-ce qu'ils ont dit? قالوا نؤمن بما أنزل علينا. Ils disent, nous croyons à ce qui est descendu sur nous. Lorsqu'il leur fut dit, nous dit le cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah, croyez à ce qui a été descendu sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'ils ont répondu? قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا. Ils dirent, nous croyons à ce qui a été descendu sur nous. C'est-à-dire, Moussa alayhi salam. Les gens qui suivaient la Torah, plus tard le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam arrive. N'est-ce pas? Il leur dit, croyez à ce message et suivez. Ils répondent, nous croyons à ce qui a été descendu sur nous. On reste sur la Torah. Alors que la Torah appelle au Coran. La Torah, qui n'a pas été falsifiée, appelle au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah, dit, yaqulun, nahnu nu'minu bit Tawrat illati unzilat ala nabiyyina Moussa. Ils disent, nous croyons à la Torah qui a été révélée sur notre prophète Moussa. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ. Dans le sens de cette partie de verset. Et ils mécroient ce qu'il y a derrière eux. C'est-à-dire, l'Injil, l'Évangile, nous dit Cheikh Al-Fawzan, qui a été révélé à Isa. Et ils mécroient aussi au Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a donc répondu à ces gens-là en leur disant, dans le sens des versets, que si il est vrai que vous dites suivre la Torah. Alors pourquoi vous tuez des prophètes? Parce que le peuple de Banu Israël a été favorisé par Allah, comme vous le savez. Parmi les choses par lesquelles ils ont été favorisés, l'envoi d'un grand nombre de prophètes vers eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour beaucoup d'entre eux? Ils les ont tués. Wal'iyadu billah. Ils ont assassiné les prophètes. Et quand le prophète Mohammed est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam, et leur a dit de suivre, ils ont dit, nous croyons en notre livre. Mais votre livre, pourquoi alors vous tuez vos prophètes qui sont envoyés? En réalité, vous ne croyez même pas en votre livre. Vous n'appliquez pas vraiment votre livre. Et le cheikh Saleh al-Fawzan nous dit, وَهَذَا يَشْمَلُ مَنْ يَقُولُ أَنَا لَا أَتَّبِعُ إِلَّا فُلَانًا مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْوَاجِبُ أَنَّهُ يَقْبَلُ الْحَقِّ. Cela entre aussi dans ce cadre-là, ceux qui disent « je ne suis qu'un tel parmi les savants, seulement ». Le devoir est de suivre et d'accepter la vérité. « Wa la yata'assabu li imami » et de ne pas se fanatiser pour ce « un tel », cet imam. « Aw li mudarrisi » ou pour son enseignant. « Aw li shaykhi » ou pour son shaykh. « Mithl mashaykhi turuq » comme les maîtres du soufisme, pour lesquels ils sont complètement fanatisés. Tout ce qu'ils disent de faire, ils le font, et ce qu'ils disent de ne pas faire, ils ne font pas. Ce comportement est faux. Ce qu'il faut, c'est suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. c'est lui que l'on suit de façon absolue. Celui qui croit que l'on doit suivre de façon absolue, autre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est tombé dans un acte de mécréance majeure. Wal'iyadhu billah. C'est le seul que l'on suit de manière absolue. Tu fermes les yeux et tu fais tout ce qu'il te dit. Uniquement le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Car il transmet la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite, Al-mas'alatu tasi'atu wal'ishroun. La question 29. أنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم كما قال تعالى ونبه قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. La question 29, c'est que avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire le fait qu'ils n'acceptaient de la vérité que ceux qu'ils trouvaient chez les leurs, chez leur groupe, avec cela ils n'appliquaient pas ce qu'il y avait en réalité dans leur groupe. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla leur a dit, pourquoi alors vous tuez les prophètes si vraiment vous êtes croyants? Vous dites que vous avez un groupe et que vous n'accepterez de la vérité que autrui vous présente que ce que vous retrouverez dans votre groupe. Mais dans votre groupe, on ne doit pas tuer les prophètes. Et vous, vous les avez tués. Vous en avez tué beaucoup. Donc ça te montre l'égarement et l'égarement de ce genre d'agissement. Ils ont tué les prophètes et n'ont pas suivi leur propre livre qui leur ordonnait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم